Voilà, bonjour tout le monde. En fait, ce matin, je voudrais partager quelque chose qui est vraiment quelque chose que je suis en train de vivre actuellement. C'est pas du tout quelque chose de... Merci. Voilà, je voudrais juste vous partager ce que Dieu est en train de m'enseigner actuellement. Peut-être qu'il vous l'a déjà enseigné. Tant mieux hein, si vous l'enseignez, mais en tout cas, je voulais juste... Moi, ça me permet dans ces temps que je vis, en tout cas, ce que Dieu m'enseigne, ça me permet de rester stable, de rester sécure, de rester vraiment en lui et pas dans l'insécurité ou dans la crainte. Voilà, donc je veux vraiment juste vous partager. Alors, je vais commencer par la même chose que la dernière fois. Et j'y suis pour rien du tout. Je me suis rendu compte une fois que j'avais commencé. La dernière fois, j'avais commencé en disant « Dieu est Dieu ». Et là, je redis, Dieu est Dieu. Amen. Est-ce que Dieu est Dieu? Oui. Il n'est pas comme nous, vous êtes d'accord? Dieu est Dieu. Il n'est pas comme nous. En fait, on ne peut pas le comparer avec nous. On ne peut pas lui donner les mêmes attributs qu'à nous-mêmes. Pas du tout. Alors là, je vais avoir besoin de vous. Vraiment, j'ai besoin que vous participiez. Donc, nous, on est charnel. Dieu, comment il est? Il est spirituel. Nous, on vit dans le présent. Ici, à un point P du monde, Dieu, lui, il est... Ouais, il est omniprésent. Il est de partout en même temps. Il n'est pas qu'ici, comme nous. Il est ici, il est au bout du monde, il est à Lyon, il est en Afrique, il est en Asie. Il est de partout en même temps. Nous, on a une connaissance limitée. Lui, il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Nous, on est limités à nos limites humaines. Lui, il est... Ouais, il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout puissant, il peut tout, il n'a aucune limitation. Aucune limite. Nous, on agit dans le naturel. C'est notre limite. Et lui, il agit dans le naturel, mais il va plus loin que nous, il va aussi dans le surnaturel. Il nous dépasse, Dieu est Dieu, il nous dépasse. Nous, on est régi par des lois naturelles, lui, il n'est régi par aucune loi, qu'elle soit naturelle ou autre. Il les régit toutes. Il régit toutes les lois de la terre et du ciel. Nous, on est sa création, ses créatures dans la création. Lui, il est le créateur de toutes choses. Nous, on est limités. Alors, à beaucoup de niveaux, hein. Je sais pas, est-ce que vous êtes limités? Oui. Qui pense qu'il n'est pas limité? Ah, Jérémy? Et c'est qui la main qui s'est montrée mais qui n'a pas montré la tête? J'ai vu une main sortir. Ah, il faut être courageux jusqu'au bout. Donc Jérémy, tu te trompes, et puis la main qui s'est manifestée en se cachant, tu te trompes jusqu'au bout. Nous, on est limités à différents niveaux. Dans le temps, dans notre action, dans le possible, on est vraiment limités. Et lui, il est sans limite. Il est le grand je suis. Et c'est par lui que sont toutes choses. Nous, on est homme. Lui, il est Dieu, fait homme en Jésus, mais il est Dieu. Souvent on dit, justement, ça peut être quelque chose d'erroné, Dieu est homme. C'est vrai, Dieu s'est fait homme en Jésus, mais Dieu est Dieu. Nous-mêmes, des fois, on peut avoir une petite pensée parce qu'on se dit, presque on pourrait mettre Dieu à notre hauteur parce qu'il est homme. Mais Dieu s'est fait homme en Jésus, mais il est Dieu. Notre nature, elle est charnelle, elle est humaine, et la nature de Dieu, elle est... Elle est quoi, Vincent? Elle est divine. N'hésitez pas, hein, allez-y, répondez. Il vaut mieux qu'il y en ait 30. Vaut mieux se tromper que de ne rien dire. Comme ça, on participe ensemble. Nous, on peut agir jusqu'à un certain point, X, avec nos capacités humaines. Et Dieu, lui, il a cette capacité de commencer à agir où nous, on ne peut plus rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous jusqu'au point X, il est avec nous jusqu'au point X. Mais quand nous, on arrive, boum, devant le mur, Dieu, il a la capacité d'aller plus loin. Il n'est pas comme nous. Il est dans le possible, mais il est aussi dans l'impossible. Quand moi, je ne peux plus rien faire, alors là, il est le seul qui peut encore. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, on voit que Jésus et ses amis et sa maman ont été invités aux noces de Cana. Et le mariage a super bien commencé. Il y avait du vin, beaucoup de vin. Puis d'un coup, il n'y avait plus de vin. Alors, qu'est-ce que pouvaient faire les serviteurs ? Dans leurs possibilités, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire au mieux ? Ils pouvaient soit servir de l'eau, soit aller en acheter. Bon, moi, je n'avais pas pensé à aller en acheter. Mais c'est vrai. En tout cas, imaginons que c'était un samedi soir, que tout est fermé, et puis que vous en êtes de toute façon un mariage. Je ne sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un prendre une voiture. Bref, c'était l'époque aussi, ce n'était pas la même époque que nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a quelqu'un qui a eu une super idée et qui a dit, mais on va faire appel à Jésus. Jésus est là. On va faire appel à Jésus. Donc, il a appelé Jésus. En l'occurrence, c'était sa mère. Il a dit, Jésus, viens, viens. Là, il y a une situation impossible. On ne peut servir que de l'eau. On ne peut plus rien faire. Viens, Jésus, viens. Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné des ordres. Bref, il a fait. Il a été plus loin que où la situation en était. Il a fait un miracle. Jésus a fait le miracle. Parce que quelqu'un a eu la bonne idée de l'appeler. Et il a changé l'eau en vin. Et ils ont pu continuer à boire du vin à gogo. Jésus n'a pas dû remplir un petit peu. Ils disent ils ont rempli plusieurs outres. Je crois que c'est deux, voire même plus. Hein. Des outres, c'est vraiment très très gros. 600 litres. Voilà. Donc si c'est deux, c'est 1200 litres. 6 jars. Voilà. Donc quand Dieu peut aller plus loin. Quand l'homme ne peut plus rien, Dieu peut encore. Moi, je suis le témoignage vivant de ça. Quand j'étais bébé, j'avais quelques mois, j'ai attrapé un staphylocoque doré derrière la tête, donc il y a longtemps. Et puis, mes parents m'ont emmené chez le médecin, j'avais quelques mois. Hein. Et puis, les médecins ont dit, à Nîmes, elle va mourir, on ne peut plus rien faire. Éventuellement, emmenez-la à Paris. Peut-être qu'à Paris, les grands spécialistes pourront faire quelque chose. Donc, ils m'avaient donné des antibiotiques pendant au moins 4-5 mois. Et en fait, c'était vraiment une infection et ça prenait toute ma tête. On était obligé de m'attacher les mains. J'étais toute petite avec les mains attachées. Et l'infection continuait à se propager. Et donc, il n'y avait plus rien à faire. Et mon oncle et ma tante, qui connaissaient Jésus, qui savaient que Jésus pouvait aller plus loin, ont dit à mes parents, qui eux n'étaient pas croyants, ils étaient pratiquants de je ne sais pas quoi, de la tradition, mais ils n'étaient pas croyants, ils ne connaissaient pas ce Jésus. Ils m'ont quand même emmenée à une réunion le soir où il y avait un missionnaire américain qui venait et qui allait prier pour les malades. Ils m'ont emmenée et m'ont présenté à ce monsieur qui a prié pour moi pour que je sois guérie. Ils m'ont récupérée, on est rentré à la maison, ils m'ont couchée dans le petit lit. Et le lendemain matin, je n'étais pas guérie sur ce moment-là, et le lendemain matin, quand ma maman m'a pris dans le lit, les croûtes étaient tombées et toute ma tête était guérie, tout était cicatrisé. Tout. Les médecins avaient dit, c'est fini, elle mourra. Et humainement, je devais mourir. Mais Dieu, Jésus, avait la possibilité d'aller plus loin et de faire le miracle. Et c'est pour ça que je suis en chair et en os aujourd'hui, en bonne santé. Il y a quelques petites cicatrices, mais c'est rien du tout. J'ai vécu. Donc quand nous ne savons plus, lui, il sait encore. Quand on n'a plus, lui, il a encore. Il a des ressources, il a des provisions, il a des solutions. Il a encore. Et moi, ce que je crois vraiment, et c'est ce que je vis, je crois que Dieu veut nous faire marcher une marche spirituelle qui s'appelle la marche de la foi, la marche par la foi. Je crois vraiment que c'est le temps, c'est quelque chose que Dieu fait. C'est quelque chose qu'on lit, mais je crois vraiment qu'en tout cas, Dieu nous emmène là. Moi, Dieu m'emmène là. Vraiment, de plus en plus. Et ce que je pensais être la marche par la foi il y a un an de ça, je me rends compte que c'était une certaine forme de marche par la foi, mais qu'il y a une progression, il y a différents niveaux. Il y a vraiment différents niveaux dans cette marche. Et la marche par la foi, ce n'est pas la foi en nous-mêmes, en nos capacités. Parce que ça, c'est facile, ça, c'est dur de ne pas le faire. Hein. Naturellement, on le fait tous. Mais c'est la foi en Dieu, en ce Dieu qui est un Dieu tout-puissant, le Dieu du miracle, le Dieu du surnaturel. Donc Dieu égale, les gros points, miracle. Dieu égale, impossibilité, possibilité. Dieu égale, solution. Dieu égale, espoir. Devant l'impossibilité de la situation que tu vis. Là, on ne pense plus en termes de limites, d'impossibilités, mais on commence à penser en termes de possibilités et de possibles. Parce qu'on raisonne en lui et on raisonne comme lui. Et je crois que dans cette marche, il y a des mots qu'on va devoir effacer de nos têtes. Ça, j'en suis même convaincue. Il y a des mots qu'on va devoir effacer, comme le mot « impossible », comme le mot « jamais », comme le mot « résignation ». Je crois vraiment que Dieu va nous emmener à effacer ces mots de nos têtes. Et pour cela, je me place pas en moi, de mon côté, mais je vais me placer en lui, de son côté. Nous nous disons « c'est impossible ». Dieu dit, en Matthieu 19, 26, « à moi, tout est possible ». Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous nous disons, il n'y a plus. Dieu dit, il y aura toujours. Il n'y a pas juste pour maintenant, il y aura toujours. Nous on dit, il n'y a plus d'espoir. Et Dieu dit, lève-toi et marche. C'est quand même une autre façon de parler, c'est une autre façon de lève-toi et marche. Dieu veut nous amener à ne plus raisonner avec nos propres pensées, avec notre propre intelligence, mais il veut nous amener à raisonner avec sa pensée, avec notre intelligence renouvelée par son intelligence. Vraiment, je crois vraiment que c'est quelque chose que Dieu veut faire. Ça veut dire qu'on ne va plus fonctionner avec nos cinq sens. Vous vous rappelez une fois, j'avais parlé sur les sens, pour ceux qui étaient là. On ne va plus fonctionner avec nos cinq sens, mais on va aussi commencer à fonctionner avec un sixième sens. Vous savez qu'on a un sixième sens ? Qui sait qu'on a un sixième sens ? Levez la main si vous savez. Personne ne sait qu'on a un sixième sens ? Non, on a un sixième sens et ce sixième sens, il s'appelle la foi. Mais il faut le dire fort, ça m'aide, moi. C'est mieux quand on partage. Là, tout le monde est très sérieux ce matin. C'est impressionnant. Vous entendez? Ouais, on a un sixième sens qui s'appelle la foi. On a tous cinq sens naturels et on a aussi un sens qui est spirituel. Le problème, c'est que souvent, on ne le sait pas. Alors, si on ne le sait pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'utilise pas. Le problème, il se situe là. On ne sait pas qu'on a un sixième sens. C'est comme on a deux mains. Si depuis que j'étais née, je ne savais pas que j'avais deux mains tout en ayant deux mains, il y aurait un problème. J'aurais un handicap. J'aurais toutes sortes de problèmes, tout simplement parce que j'en aurais deux et que je n'utilise pas la deuxième qui est faite pour fonctionner. Mais la foi, c'est la même chose. C'est un sixième sens spirituel. Il y en a cinq naturels. Il y en a un spirituel qui s'appelle la foi. Et on doit fonctionner avec les cinq et on doit fonctionner avec le sixième aussi. Si on laisse juste nos cinq sens régir nos vies, eh bien alors on est résigné. Ok, il nous arrive une tuile, mais voilà, moi je devais mourir, mes parents auraient pu dire, eh bien elle va mourir, c'est la vie, c'est comme ça. On peut dire je suis malade, mais c'est normal, je souffre, c'est normal. Voilà, si on vit juste avec nos cinq sens, on a une petite vision, on est résigné, on est fataliste. Et Dieu, il va nous mettre dans des situations inconfortables pour qu'on apprenne à utiliser notre sixième sens, qui est la foi. Alors, je vais le répéter, Dieu va nous mettre dans des situations, va nous mettre ou nous a mis, je pense plutôt nous a mis, nous a déjà mis, ou va nous mettre, ou continuera de nous mettre dans des situations inconfortables pour qu'on apprenne à utiliser notre sixième sens, qui est la foi. Alors j'ai lu quelque chose d'hyper important, en tout cas ça m'a énormément parlé. Vous savez, chez les aigles, dans la famille des aigles, alors il y a différents aigles, hein, mais chez l'aigle royal, quand la maman elle a des œufs, souvent elle en a deux, et en fait les bébés, les œufs, elle les met dans le nid, et puis quand les bébés éclosent, ils sont dans le nid. Et ils sont très, 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 très confortablement installés dans le nid. C'est vachement bien fait, un nid. D'ailleurs, moi, je les ai vus dans le sud. Là, ils emmènent les brindilles. C'est super, ça a l'air super confortable. Il y a des petits duvets. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, quand ils naissent, ils sont dans le nid. Et ils sont bien. C'est confortable. C'est super, super bien. La maman, elle leur amène à manger. Ils ont juste à ouvrir la bouche. Ils sont super bien. Et puis, ils oublient, en fait, ils sont tellement bien qu'ils oublient que leur destinée, qu'ils ont des ailes, et que leur destinée, c'est de voler. Alors, comme ils oublient, parce qu'ils sont hyper bien installés, à 10 semaines, ils sont prêts pour voler, pour leur premier vol. Mais comme ils sont bien, eux, ils ne bougent pas. Alors, vous savez ce que fait la maman et le papa, pas que la maman. Hein? Non. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser jeûner les petits bébés une ou deux semaines. C'est pire que de les jeter. Ils vont les laisser jeûner une ou deux semaines pour que le vol devienne vital. Tu as dit quoi? Et en fait, ça va les inciter à voler. Ça va les inciter parce qu'ils vont se dire, si je ne veux pas mourir, si je ne veux pas crever devant ma situation, il va falloir que j'utilise mes ailes pour vivre. Donc ça, c'est dans la famille de l'aigle royal. Mais il y a une autre famille d'aigles, ça revient au même. Hein. Mais là, la maman, je ne sais pas si ça revient au même, mais c'est aussi pire ou aussi bien. Je ne sais pas aussi pire ou aussi bien, parce que le résultat, en fait, il faut regarder au résultat. Hein. La maman, elle, alors, au bout d'un certain moment, quand les enfants peuvent voler, elle va carrément détruire le nid. Elle va le mettre en chenille, elle va l'abîmer. Et puis, du coup, elle va le rendre hyper inconfortable. Et le bébé va être abîmé qu'il va se laisser attraper par la maman. Et la maman et le papa, ils vont monter. Ils vont s'envoler avec lui. Ils vont s'envoler. Vous imaginez le bébé qui n'a jamais quitté son nid, hyper inconfortable. Et puis, ils vont traverser les nuages, ils vont arriver où il y a le soleil. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les lâcher et les bébés, ils vont crier. Aaah! Et puis, parce qu'ils ne veulent pas mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rendre compte qu'ils ont des ailes. Ils vont se dire peut-être qu'elles servent à quelque chose. Alors, ils vont les bouger. Et puis ils vont commencer à voler, mais comme ils ne savent pas bien le faire, la maman et le papa vont les récupérer en bas. Et ils vont les reprendre, et ils vont remonter. Et ils vont retraverser les nuages, et ils vont les relâcher. Et puis ils vont déployer un peu plus leurs ailes. Et puis ils vont les récupérer, et ils vont les entraîner comme ça, jusqu'à ce que le bébé sache voler. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Moi je trouve que c'est violent. C'est violent. Ils ont dû détruire un nid, ils ont dû faire jeûner leurs enfants, pourtant ils les aiment. Ils ont dû leur enlever le confort pour les mettre dans des situations où ils vont devoir marcher, fonctionner différemment. Et moi, je crois vraiment que Dieu a les mêmes méthodes avec nous. Je crois vraiment que Dieu a les mêmes méthodes avec nous. Moi, ça m'a énormément parlé quand j'ai vu ça, cette loi de la nature, ça m'a parlé. Et la maman, elle ne l'a pas laissé tomber. Le bébé, hein, quand il a volé, qu'il n'arrivait pas, elle l'a récupéré. Et je crois vraiment que Dieu va permettre des temps, des situations, il va venir, il est peut-être venu déjà dans vos vies, moi il est venu dans ma vie, et il a détruit des nids dans lesquels j'étais super bien installée, où tout allait bien, où je contrôlais tout, où tout venait. Et il a détruit le nid. Mais il n'est pas parti. Il me fait marcher différemment, mais il est là, il me récupère. Il est là avec moi. Donc c'est violent, hein, et Dieu va faire pareil avec nous. Il dit en Galates 3, verset 11, le juste vivra par la foi. L'aigle vit en volant. Le juste vivra par la foi. Est-ce que vous êtes juste? Ah, c'est bien. On est juste. Hein? On appartient à Jésus, on est juste. Donc, quelle est notre destinée? Notre destinée est de vivre par la foi. Et ça va être violent dans ces temps-là. C'est violent. On ne comprend plus. On dit, qu'est-ce qui m'arrive? tout allait si bien. Il est où ce petit nid? Il est où mon nid? Il est où mon confort? C'était tellement douillet, c'était tellement confortable. Et puis c'est la panique. Mais il faut comprendre que Dieu va nous faire jeûner ou nous fait jeûner. Il va briser ou il brise notre nid confortable où on est si bien pour nous obliger, pour nous apprendre à marcher par la foi. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Je ne crois pas qu'on soit appelé à moins. Je ne crois vraiment pas. Je crois que vraiment Dieu nous laisse tranquille un certain temps où on marche par la foi. Je crois que même quand c'est facile, moi quand je regarde en arrière, des fois je me dis mais je ne marchais pas par la foi. Je marchais quand même par la foi parce que la marche chrétienne c'est une marche par la foi. Mais il y a différents niveaux de foi et je crois vraiment que Dieu nous emmène dans des paliers, dans un nouveau palier de foi. Je crois vraiment, il le fait pour moi, mais je crois vraiment qu'il le fait pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Parce que c'est notre destinée. Donc il va briser notre nid et il va nous obliger, il va nous apprendre à marcher par la foi. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Le juste vivra par la foi. Et c'est dur, c'est fatigant. L'autre fois, j'ai parlé avec Donatienne et on disait c'est fatigant, c'est dur, c'est éprouvant. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont des défis pour qui c'est difficile. Et on parle justement d'épreuve de la foi, du combat de la foi. C'est violent, c'est quelque chose de violent, parce que c'est pas naturel en nous. C'est pas naturel. Les aiglons, s'ils veulent vivre, ils doivent voler. Nous, si on veut la vie en abondance, si on veut la vie que Dieu a pour nous, si on veut grandir, devenir des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de foi, eh bien, on va devoir marcher, vivre par la foi. C'est la marche normale. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la marche normale. De Dieu, pas de nous. Parce que moi, je préfère être dans mon nid tranquillement. Vous-même, votre nature, hein, on est plus à l'aise quand c'est confortable, quand tout est là. Mais c'est comme ça que Dieu veut. C'est la marche normale. Donc Dieu va ôter nos sécurités, ou bien il les a déjà ôtées. Est-ce que certains sentent que Dieu a ôté leur sécurité? Je vois le Vito. Il y en a peut-être qui ne le montrent pas, mais il va ôter nos sécurités à certains moments. Ce n'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Hein, pour qu'on déploie, pour qu'on utilise, pour qu'on développe ce muscle qui est la foi. Amen. Les ailes de la foi. C'est un muscle pour qu'on apprenne à le... Et ce sixième sens, on doit l'entraîner et on doit l'utiliser comme l'oiseau utilisait ses ailes. Et plus on va le faire, et plus ça deviendra facile. Et plus ça deviendra naturel. Ce qui n'était pas naturel va commencer à devenir plus naturel. Moi, j'ai un petit exemple. Hein. Je me suis opérée du syndrome carpien. J'ai des soucis à cette main-là qui m'ont obligée à fonctionner avec ma main gauche. Alors au début, c'était dur. J'étais gauche. On dit souvent, on est gauche. J'étais vraiment gauche. Je ne savais rien faire. Et puis, j'ai fait une fois quelque chose, et puis c'était très difficile, c'était à côté. J'ai fait deux fois, j'ai fait trois fois, j'ai fait quatre fois, j'ai fait cinq fois, j'ai fait six fois. Aujourd'hui, je peux dire que c'est autant naturel d'utiliser ma main gauche, peut-être pas dans l'écriture, mais autant facile et autant naturel que ce l'est d'utiliser ma main droite. Et ça n'était pas naturel. Mais à force de le pratiquer, à force de le faire, ça devient quelque chose, un pli. Ça devient un pli, une habitude, et ça devient de plus en plus facile. Et aussi, vous avez vu, surtout vous, mesdames, qui repassez les pantalons. Maintenant, je pense que les jeunes hommes repassent leurs pantalons. Ça évolue. Quand on veut un pli sur un pantalon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut donner un pli, on doit passer, on doit repasser, on doit passer, on doit repasser. Et ça marque. Et puis après, ça ne part pas comme ça. La marche par la foi, c'est une marche spirituelle où on croit Dieu, on lui fait confiance, plus qu'à ce qu'on voit, ou plus qu'à ce que nos sens nous parlent et nous disent. C'est une voie spirituelle qu'on doit ouvrir, qu'on doit creuser, qui n'existe pas dans le naturel. Je parlais avec une personne l'autre fois, et tout en parlant, j'ai vraiment eu une révélation, et cette personne me disait « Oui, mais quand il y a ci ou il y a ça, tu réagis drôlement bien ». Je disais, mais c'est pas du tout naturel. Vraiment, Dieu m'a appris. Il y a eu des choses où vraiment Dieu m'a mis devant des murs. En l'occurrence, j'avais partagé par rapport à la visite que j'avais eue d'un médecin en début d'année, où vraiment, il n'y avait aucune solution humaine. Mais j'ai préféré, j'ai confessé, Seigneur, il n'y a pas de solution humaine, mais toi, tu as tout, tu peux tout faire. Et j'étais vraiment, je croyais que Dieu allait envoyer des anges et récupérer un document qui ne devait pas arriver à un certain lieu. Et ce document n'est jamais arrivé. Mais je peux vous dire que c'est un miracle. C'est un miracle. Et il y en a eu d'autres. Et parce que j'ai vu ce premier miracle, que j'ai marché dans cette voie, moi, ça m'a fait penser à un mineur. Les mineurs, ils vont creuser. Et je crois que la voie de la foi, le chemin de la foi, ce n'est pas une voie qui est ouverte. Elle n'est pas naturelle. Et je crois vraiment qu'on doit la creuser. Et qu'on va y aller une fois, et on va faire un pas. Et on va creuser un tunnel qui n'existe pas, une voie spirituelle. Et puis la fois d'après, on va aller, on va marcher dans un autre domaine par la foi, hein, quelque chose qui est devant nous, et on va aller un peu plus loin. Et à chaque fois qu'on va aller, on va ouvrir une voie nouvelle. Il n'y aura plus que la voie de notre fonctionnement naturel qui sera ouverte, mais on va ouvrir une voie naturelle, spirituelle, dans laquelle on va la creuser et ça va devenir un tunnel. Et on va pouvoir y aller de plus en plus et surtout de plus en plus facilement. Et ça va devenir, je pense, et en tout cas je le vois pour moi, pas un réflexe, parce que ça demande toujours une certaine violence, mais plus facile. Plus facile. Donc on y va une fois, on y va deux fois, on y va trois fois, et c'est plus facile d'y aller, jusqu'à ce que ça devienne naturel, plus naturel pour nous, dans nos situations où on est devant un mur, dans nos situations d'impossibilité. Et c'est là, et là, à ce moment-là, dans cette voie-là, qu'on va expérimenter le miracle. On ne peut pas expérimenter le miracle si on ne vient pas sur cette voie-là. Si on reste dans le naturel, on n'expérimentera pas le miracle de Dieu. On l'expérimentera si on va sur ce chemin de la foi, de la marche par la foi. Là, on expérimentera le miracle de Dieu. Le miraculeux. Ce qu'on lit dans les évangiles. Il y a tellement d'écart entre ce que je vis et ce que je lis dans les évangiles. J'ai ouvert le livre de l'évangile de Jean. En 4-5 pages, il y avait 6 ou 7 miracles que Jésus avait fait. J'ai dit, mais c'est... Combien de miracles Dieu a fait dans ma vie? Combien de miracles Dieu a fait dans votre vie? Quand on lit, en 3 pages, Jésus avait déjà fait 6 ou 7 miracles. Et quand je vois le décalage qu'il y a, je dis, mais je dois commencer à aller dans cette voie où le miraculeux va tomber, où le miraculeux va venir. Si j'y vais pas, je ne le verrai pas. Et là, on va expérimenter vraiment Dieu, tel qu'il est. On va le rencontrer. Et la norme, et ça je le redis, c'est de vivre le surnaturel de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est la norme. Donc la foi, c'est comme un muscle. Notre raisonnement, c'est aussi comme un muscle. C'est la même chose. Ok, d'un côté, il y a la foi, de l'autre côté, il y a notre raisonnement humain. Et lequel allons-nous utiliser devant notre montagne? Est-ce qu'on va développer le muscle de la foi ou est-ce qu'on va développer le muscle de notre raisonnement? Est-ce que si je développe un muscle, je vais automatiquement atrophier l'autre? Donc si je développe le muscle de la foi, je vais atrophier le muscle de mon raisonnement. Vous avez vu dans la campagne, je ne sais pas si vous avez déjà marché dans la forêt, si une année il y a un sentier qui est frayé, et que un été, et que durant l'hiver, personne ne le tient propre, personne n'y passe, qu'est-ce qui se passe l'année d'après quand vous revenez? Il n'existe plus. Il n'existe plus. Et je pense vraiment que si on va plus du côté de la foi, par la marche, par la foi, que à raisonner avec notre raisonnement, il y a un sentier qui va s'ouvrir, qui va se créer, mais il y en a un autre qui va se rétrécir. La même chose que dans la forêt, si on ne prend pas un chemin, naturellement, il se referme. Donc lequel je vais développer et lequel je vais atrophier? Vais-je développer ma foi et atrophier mon raisonnement, c'est-à-dire croire Dieu et pas ma réalité? Ou est-ce que je vais développer mon raisonnement et atrophier ma foi? C'est-à-dire croire ma réalité, mes sens, la réalité, ce qui est devant mon nez, et pas Dieu, devant mes montagnes. Il faut savoir que si je muscle à muscle, l'autre, il va s'atrophier. Vous avez déjà eu un plâtre à une main ou à une jambe? Qu'est-ce qui s'est passé quand on vous l'a enlevé, quand on te l'a enlevé? Mais après, est-ce que ta jambe, elle était plus petite? Ah. D'accord. Moi, j'ai eu un plâtre pendant 5 semaines à la jambe. Quand on m'a enlevé le plâtre, déjà, il y avait des poils. C'est affreux. Mais le choc, c'est que j'avais un mollet comme ça et j'avais un mollet comme ça. À cause du fait que je n'avais pas utilisé ce muscle, il s'était atrophié. Et je connais d'autres personnes qui... C'est facile maintenant pour moi de repérer. Quelqu'un qui a eu un plâtre, en général, il garde une jambe, un muscle beaucoup plus fin. Il ne le récupère pas, vraiment. Mais c'est impressionnant quand on enlève le plâtre. C'est devenu tout petit. Et ces deux muscles-là, de la foi et du raisonnement, on va en muscler un et il y en a un autre qui va s'atrophier. Quand on va moins l'utiliser. Voilà, et je crois vraiment que Dieu a commencé, va continuer, va détruire nos nids, nos zones de confort pour que notre foi, elle soit utilisée, développée, pour qu'elle grandisse. Le surnaturel doit devenir le naturel pour nous chrétiens. Comme si on avait changé de lunettes. Comme si vraiment on changeait de lunettes. Naturellement, on croit ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on a, ce qu'on touche. Spirituellement, par la foi, je crois sans voir, sans toucher, sans avoir, sans sentir, sans preuve. Car je crois Dieu et pas mes sens. Je crois Dieu et ses paroles, je crois Dieu et ses possibilités, plus que les circonstances et ce qu'elles me disent. Alors c'est dur, hein, je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est dur, hein, c'est... Moi, je me sens en... Comment on dit? Pas en conflit, mais en tension. C'est vraiment être en tension, marcher par la foi. On est en tension. On est en tension. Mais c'est la voie que Dieu a pour nous. Et c'est là qu'on va rencontrer le miraculeux de Dieu. La réalité n'est pas la vérité. Donc, ton problème, ta situation, c'est une réalité. Et Dieu est la vérité. Ce qu'il dit, ce qu'il est, c'est la vérité. Et ça a toute autorité. Et la vérité est plus grande que la réalité. Même si c'est comme ça, et qu'il n'y a plus de solution, et que tu ne peux plus rien faire, Dieu te dit, moi je peux changer cela. Moi je peux ouvrir cette porte pour toi. Moi je peux changer ta situation. Moi je peux aller plus loin que où tu es aujourd'hui, où tu ne peux plus rien faire. Et c'est vrai que moi, je dis de plus en plus aujourd'hui devant mes montagnes, vraiment, je le dis de plus en plus, je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu va le faire. Je ne sais pas comment. Là, je suis en train de vous partager ça, mais demain, mardi, j'ai la réponse du tribunal. Et humainement, honnêtement, c'est une catastrophe. Mais je le crois honnêtement, je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu va changer cette situation. Et je peux vous dire que si je ne regardais pas avec les yeux de la foi, je me sauverais, je ne serais pas là, je serais effrayée, je serais peut-être sous tranquillisant, j'en sais rien. Je ne dormirais pas, je n'aurais pas la paix, mais je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu va le faire. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas comme moi. Dieu a des capacités, Dieu a des possibilités illimitées. Il a les ressources, il a les solutions. Il contrôle le monde. Il parle et la chose arrive. C'est effarant quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais c'est truffé d'impossibilités. C'est truffé de situations où ce n'est pas possible. Relisez votre livre, franchement, relisons la Bible, regardons, mais c'est truffé que d'impossibilités. Mais pourquoi dans l'Ancien Testament on voit Dieu grand? Pourquoi on voit Dieu faire des miracles? Parce que c'est truffé d'impossibilités. C'est truffé. Dans le Nouveau Testament, pourquoi Jésus agit? Parce qu'il y a plein d'impossibilités. Voilà, moi je veux confesser devant mes montagnes, je veux confesser, je ne sais pas comment, mais je crois, Seigneur, je crois que toi, tu vas aller plus loin. Je crois au miracle. Donc, devant la réalité, ok, on se dit voilà la réalité, et puis elle me fait paniquer, j'ai peur, elle me fait perdre ma paix, elle me fatigue, elle m'use, j'ai envie de fuir, c'est inconfortable, j'ai envie d'abandonner même souvent, mais non, je fais le choix, je crois que Dieu peut tout. Parce qu'il dit qu'à l'homme, c'est impossible, mais à moi, dit Dieu, tout est possible. Je suis le Dieu du possible. Il a tout dans ses mains. Il prend soin de moi. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est écrit dans sa parole. Il a promis qu'il s'occuperait de moi. Il est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On doit pas, c'est pas de l'auto-persuasion quand on a un problème. C'est pas dire j'ai un problème, mais de l'auto-positivité. Non, c'est ok. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que mes circonstances me disent et qu'est-ce que Dieu dit? Et il dit, je suis ton berger et tu ne manqueras de rien. Il a promis qu'il détruirait mes ennemis et qu'il me ferait justice. J'ai confiance par rapport à cette situation, par rapport au tribunal, parce que Dieu me dit dans sa parole, il me dit, je détruirai tes ennemis et je te ferai justice. Il est mon refuge et mon salut, et de qui aurais-je crainte? Je choisis de croire et de confesser cela devant ma situation, devant ma montagne, devant mon défi, devant mon impossibilité. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, alors il est dit, c'est par leur talent, c'est par leur capacité, je vois Michel qui se manifeste, c'est par leur don qu'ils... Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est dit ça? Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux? Il est dit, c'est par la foi. Il est dit qu'à chaque fois, que chaque héros de la foi, dans l'histoire chrétienne, c'est par la foi qu'il a obtenu, qu'il a vaincu, qu'il a reçu. Et on va le lire dans le livre des Hébreux, au verset 11, on va lire quelques versets. Donc Hébreux 11, 8, je lis, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays où il devait recevoir en héritage. Qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Verset 11. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, donc elle était vieille, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il y avait une impossibilité, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme une mer sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Verset 32, c'est « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. » C'est par la foi. C'est par la foi. Si tu vis une situation qui te semble infranchissable, comme toutes celles qu'on vient de voir, qui te semble impossible, si tu es devant un mur, Dieu te dit, enfin, tu vas devoir et tu vas pouvoir marcher par la foi, en me faisant confiance et en croyant que j'ai une solution pour ta situation. Et moi, je peux vraiment dire qu'en ôtant mon nid, vraiment en ôtant mes sécurités, Dieu m'a fait arriver au bout de moi-même. Je peux vous dire qu'il fallait qu'il en mette beaucoup. Parce que naturellement, je peux dire j'ai des capacités. Je suis endurante. Naturellement, je vais toujours aller chercher des ressources. Ça m'est facile, très facile. Mais vraiment, Dieu, pour en arriver à bout de moi, pour que moi j'en arrive à bout de moi-même, Dieu a dû détruire mon nid, mes nids dans différents domaines. Vraiment. Et c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Et ça, ça me change. Ça a changé ma vie, mais ça me change. Alors bien sûr, c'est moins confortable, c'est beaucoup moins confortable, mais je vois Dieu à l'œuvre dans ma vie. Je le vois, je peux dire que depuis cette dernière année, j'ai vraiment vu, j'ai touché au miraculeux de Dieu. Alors qu'avant, non. Je vivais bien, mais je ne touchais pas à la dimension spirituelle. Oui, dans la louange, oui, dans tout ça, mais pour ma propre vie. Pour posséder, pour avoir, pour recevoir, pour... Vraiment. Et c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Moi, je prends juste au niveau de la guérison. C'est aussi un domaine de foi où je fais des pas, où je grandis. Et parce que maintenant, il y a des choses simples pour lesquelles je prie pour moi-même. Et ça part instantanément. J'avais de l'herpès avant, tout le temps. Maintenant, quand l'herpès pointe son nez, je fais pas grand-chose, j'ai ma main. Je lui ordonne de partir. Et grâce à Dieu... qui peut faire l'impossible, mon herpès repart comme il est venu. Il y a d'autres petits problèmes de santé comme ça, où je gagne du terrain. Et c'est parce qu'aujourd'hui, cette bataille, elle est gagnée, que demain, une autre pourra être gagnée, et que la guerre pourra être gagnée. Que de grandes guerres. Les petites batailles d'aujourd'hui vont amener les grandes guerres de demain. Et ce muscle doit être exercé. Il est exercé. La foi est quelque chose qui doit être exercé dans nos vies. Pour obtenir les promesses de Dieu. Et c'est vrai, je pense de moins en moins en termes d'impossibilité. Alors c'est vraiment sans prétention, hein, je vous partage vraiment ce que je vis. Je pense de moins en moins en termes d'impossibilité, mais de plus en plus en termes de possibilité de Dieu. Parce que je regarde de moins en moins à moi. J'ai vraiment compris, j'ai vraiment capitulé que je ne pouvais rien faire. Et je regarde de plus en plus à Dieu qui peut tout faire. Et pour la chambre de guérison, c'est pareil. Si on regarde avec les yeux humains, on ferme et on s'en va. Mais on y va, enfin je peux dire pour les personnes qui sont là, on est vraiment rempli de joie et de foi quand on y va, parce qu'on sait que ça ne dépend pas de nous. Dieu veut guérir, ça dépend de lui. C'est son travail. On est là, on est... Vraiment, les deux mots que Dieu nous avait donnés, c'est l'obéissance et l'humilité. On est là par obéissance et après on est humble. On ne peut rien faire. Rien faire. Rien du tout. Qu'on ne sente pas, qu'on se sente bien, qu'on ne se sente pas bien, c'est Dieu. Il veut guérir, c'est lui qui le fait. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien retrancher, on ne peut rien faire. On voit aussi qu'à chaque fois qu'un miracle a eu lieu dans la Bible, c'est parce qu'il n'y avait plus aucune solution humaine. Il y avait un problème. Alors, l'eau qui a été changée en vin, pourquoi elle a été changée en vin ? Pourquoi elle a été changée en vin ? Parce qu'il n'y avait plus de vin. La résurrection de la petite fille de 12 ans. Pourquoi il y a eu la résurrection ? Parce qu'elle avait perdu la vie, elle était morte. La guérison d'un aveugle. Pourquoi ? Parce qu'il ne voyait plus, il était aveugle, il avait perdu la vie. La multiplication des pains et des poissons. Ah, c'est bien, ça vient. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai entendu beaucoup de voix, mais je n'ai pas compris. Et oui, et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Voilà, il n'y avait pas assez. Donc Dieu se met en mouvement quand il n'y a plus de possibilité. Regardons dans la Bible, c'est ça le chemin. Dieu se met en mouvement quand il n'y a plus de possibilités. Il ne se met pas en mouvement quand on a encore des possibilités. C'est un mensonge, c'est faux. Dieu se met en mouvement quand il n'y a plus de solution. Alors là, il a pu agir. Je crois qu'il attend que ça. Moi, en tout cas, il attendait que ça de ma part. Et il a eu du mal, il a dû casser des nids, il a dû déployer de l'énergie, il a dû déployer de la violence. Alors, n'ayons pas peur, n'aie pas peur, ne panique pas s'il n'y a pas de solution. S'il n'y a plus de solution, si tu ne vois aucune solution dans ta vie, si ce que tu attends n'est pas encore là, parce que tu es à la porte du miracle. Tu es vraiment à la porte du miracle, à la porte de ton miracle. Le miracle ne peut se manifester dans ta vie que s'il y a une situation d'impossibilité. Donc, ce n'est pas un vrai problème si ta situation semble bloquée. Qui c'est qui est d'accord ? C'est un problème, hein ? C'est un problème. Mais ce n'est pas un vrai problème, parce qu'il y a une solution. Un réel problème n'a pas de solution. Ça, c'est pas un vrai problème. Parce que tu es à la porte de ton miracle. C'est où Dieu t'a emmené. C'est où Dieu t'a emmené. Le miracle arrive. Fais-lui confiance. Donne-lui cette situation. Vraiment, donne-lui. Lâche-la. Et ton miracle arrive. Quand il n'y avait plus de vin, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était tout simple. Ils ont dit Jésus, il n'y a plus. On ne peut plus, on ne peut rien faire. Fais. Et Jésus attendait que ça. Jésus, il avait vu qu'il manquait du vin. Est-ce qu'il s'est manifesté? Non. On a dû lui dire Jésus, on ne peut plus. On ne peut plus. À toi de jouer. À toi de jouer. Et Jésus, il a joué. Et Jésus, il a fait. Donc ton problème, en fait, c'est une occasion pour Dieu de se manifester. C'est une occasion pour Dieu de se manifester. Enfin, il dit, enfin, je vais pouvoir agir. Ça me fait rire de le dire parce que ça peut paraître fou. Mais enfin, il se dit, je vais pouvoir agir. Enfin, elle a fini avec elle-même. Enfin, elle me laisse faire. Je vais pouvoir agir. J'attendais que ça. Donc réjouissons-nous. Nous allons vivre la réalité du royaume. Nous allons la voir plus que ce qu'on a vu hier. Peut-être moins que ce qu'on la verra dans un an. Mais nous allons voir la réalité du royaume de Dieu. Le miraculeux qui va venir envahir notre quotidien. Moi, je désire que le miraculeux vienne envahir ma vie, vienne envahir ma famille, vienne envahir mon boulot, vienne envahir l'église, vienne envahir le pays, vienne envahir la ville de Guebwiller. Vraiment, le miraculeux va. Vraiment, je désire qu'il envahisse tous ces domaines-là. Et vraiment, je veux voir le même Jésus, je veux voir à la même fréquence, c'est peut-être ambitieux, mais quand sur 3 pages, Jésus fait 6 miracles, je veux voir le miraculeux, peut-être pas à cette fréquence-là, parce que c'était Jésus, parce qu'il faut grandir, mais je veux voir le miraculeux dans ma vie, à un rythme. Je ne veux pas me satisfaire de ne pas le voir, je veux le vivre. Je veux vivre le surnaturel, je veux vivre la dimension de Dieu, je veux vivre cela dans ma vie. Vraiment, aujourd'hui, je veux voir, là, avec moi, je veux voir Jésus faire les mêmes œuvres, et de plus grandes, parce qu'il a dit qu'il en ferait de plus grandes que celles qu'il a faites quand il était sur terre. Amen. Et je veux voir le même Dieu qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui a ouvert la mer. Quand on le lit avec ce regard-là, mais c'est Dieu et Dieu. Dieu n'est pas comme nous. C'est énorme, c'est impressionnant. Voilà. Amen. Est-ce que toi, tu as envie de voir, d'entrer dans cette dimension? Est-ce que tu as envie? Oui, amen. Amen. Vraiment que Dieu nous ouvre les yeux et qu'il nous emmène. Vraiment, c'est lui qui le fait, c'est lui qui détruit les nuits et c'est lui qui va nous emmener à marcher par la foi, de foi en foi, dans cette marche. Seigneur Jésus, vraiment, je veux te bénir, Seigneur. Je veux te bénir pour qui tu es, pour tes façons de faire, Seigneur. Je veux te bénir parce que Seigneur, tu as des façons de faire qui ne sont pas les nôtres. Tu as des voies qui ne sont pas les nôtres. Un fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Mais Seigneur, tu veux nous emmener à fonctionner, à vivre par la foi pour entrer dans tes fonctionnements, pour entrer dans tes promesses, pour entrer dans ton royaume. Et Seigneur, merci. Merci pour ces situations inconfortables que toi tu as suscitées dans nos vies. Seigneur, merci aussi pour le but que tu t'es fixé, que tu nous fixes dans ces situations-là. Et merci Seigneur parce que tu nous fais développer ce muscle de la foi, les ailes de la foi, afin que Seigneur on vive de ta vie, on vive dans ta dimension, on vive le miraculeux, que le miraculeux devienne le naturel dans nos vies. Que ta dimension, Seigneur, devienne la norme. Que, Seigneur Jésus, vraiment dans nos vies, que nos vies soient des témoignages de ta puissance. Seigneur, merci. Vraiment, vraiment merci pour ta grâce qui nous accompagne dans ce chemin. Seigneur, merci de nous... de nous élever comme l'aigle. Merci de nous, de faire de nous des jeunes gens, des jeunes femmes, des hommes de foi, de Dieu, qui marchent pas par la vue, mais qui marchent par la foi. Parce que Seigneur, c'est ton programme. Tu dis que le juste vivra par la foi. Et c'est ce qu'on veut, on veut obéir, Seigneur. On veut t'obéir et aller où tu veux qu'on aille. Et posséder et recevoir, Seigneur, vraiment, ce que tu as pour nous. Merci, Seigneur. Tu n'es pas comme nous, tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu. Et on met toute notre foi en toi, Seigneur. On te donne ce matin toutes nos impossibilités, tout ce qu'on peut porter, qu'on a encore tenu jusqu'à aujourd'hui. Mais Seigneur, on veut se décharger, on veut lâcher prise, on veut te donner, Seigneur, tout ça. Et te dire, on ne peut plus, comme il s'est passé aux noces de Cana, on ne peut plus, on ne sait plus. On est devant le mur, on n'a aucune solution. Mais Jésus, à toi de jouer. Et que Seigneur, ce matin, vraiment, chacun puisse le faire. Ceux qui en ont besoin, que vraiment chacun le fasse dans son cœur. Et je te remercie, Seigneur, parce que je crois que, Seigneur, le miracle est à la porte. Le miracle est là. Que dans cette situation, Seigneur, tu manifestes ton miracle pour chacun de nous ce matin. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Amen.